Bonsoir à tous. Une nouvelle émission de Parlons Patrimoine, la plus belle, c'est l'émission du mois de mai, ce mois de mai où on a eu que des ponts, que des ponts. Et on va tout de suite commencer avec Christophe Tapia de Sunny Asset Management. Et on a prévu de parler de l'Amérique. L'Amérique qu'on attendait tous à la fin de l'année dernière, qui est arrivé, qui est parti, qui est revenu, qui nous fait quelques petites bizarreries, quelques petites cachotteries. Vous, en début d'année passée, je crois que vous avez repris un fonds américain ou relancé un fonds américain. Comment ça se passe? Quelles sont votre vision? Est-ce que, voilà, comment vous voyez ça un petit peu? Parlez-nous peut-être d'abord en 2 minutes de Sunny, puis après de l'Amérique et ensuite de votre fonds.
Parfait, merci Bernard. Alors, il s'est effectivement passé beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Comme vous l'avez dit, les États-Unis, c'est la première puissance économique mondiale. Donc, dès qu'il se passe quelque chose aux États-Unis, bien évidemment, tout le monde regarde ça avec beaucoup d'attention. Donc, on va en reparler, bien évidemment. Juste un mot sur Sunny. Sunny, c'est une société de gestion d'actifs française, totalement indépendante, qui gère aujourd'hui 1,3 milliard d'euros, donc agréée par l'autorité des marchés financiers. Et dans lequel globalement on a différentes activités, différentes classes d'actifs. On fait très bon sur l'univers obligataire, on fait aussi des actions. Et c'est vrai que depuis juillet de l'année dernière, on a décidé de relancer un fonds qui s'appelle Sunny North America, donc un fonds sur l'économie nord-américaine, donc États-Unis et Canada, avec une volonté de travailler les États-Unis et le Canada d'une manière un peu différente dont ça a été fait historiquement. C'est vrai que quand on parle des États-Unis depuis maintenant un certain nombre de trimestres, voire d'années, on est obnubilé par la partie technologique. Et c'est vrai que la techno aux US, c'est un énorme sujet. On connaît tous les plus grosses boîtes américaines, les Nvidia, les Microsoft, les Google, les Apple. Tout le monde connaît ça. Et on a l'impression qu'aux États-Unis, finalement, c'est qu'une économie où il n'y a que des boîtes techno. Il se trouve que ce n'est pas exactement ça. En tout cas, ce n'est pas que ça. C'est ce qui a drivé le marché au cours des derniers mois, au cours des dernières années. Néanmoins, on s'aperçoit qu'on peut travailler les États-Unis d'une autre manière. Et les actions américaines, nous, on a choisi d'avoir un biais qui était un biais que tout le monde comprend assez bien, qui était un biais au travers des actions qui distribuent du dividende. Parce que la première rentabilité pour l'actionnaire, la première rémunération pour l'actionnaire, quand on achète une action, ben c'est le rendement. Et le rendement, il s'évoque avec des dividendes. Alors, on a l'impression que les dividendes, c'est qu'en Europe hein, et qu'aux États-Unis, il n'y en a pas. Ben ce n'est pas exactement le cas. Aux États-Unis, il y a une vraie grande culture du dividende. Et donc, c'est un sujet qui est extrêmement important pour nous. On pourra en reparler tout à l'heure. Et donc, nous, on a choisi d'avoir une poche dans notre portefeuille qui est très orientée sur ces valeurs qui distribuent dividendes et qui permettent effectivement de faire des choses un petit peu différentes de ce qu'on a pu faire historiquement sur les États-Unis.
Alors, tout le monde parle de cette technologie avec les États-Unis, mais en fin de compte, l'histoire de l'Amérique, c'est ça. L'histoire de l'Amérique, c'est la technologie. Et ensuite, avec un petit peu de temps, l'action, elle devient moins technologique et puis elle passe dans une autre sphère. Et oui, donc, elle continue à vivre sa vie, à ramener du profit, à faire des choses. Mais, une société se crée par ses inventions, et même si on prend des choses comme Nestlé ou comme L'Oréal, on pourrait dire c'est pas de la technologie, c'est complètement différent de la technologie. S'ils existent, c'est parce qu'ils ont créé, c'est parce qu'ils ont fait des avancées technologiques, donc ou dans le bio, dans les choses comme ça, ou dans la capacité à comprendre des phénomènes. Et puis maintenant, ils ont créé des crèmes de tous les jours, mais ces crèmes de tous les jours, à un moment ou à un autre, elles furent révolutionnaires. En revanche, ce qu'on a dans la technologie ou dans le lead, et ça on l'a toujours, on a de la volatilité. On a de la volatilité et c'est cette volatilité qui amène un surprofit dans le temps et c'est un équilibre qu'on a aujourd'hui. Donc s'engager dans un fonds avec vous, c'est ne pas aller chercher cette volatilité, donc refuser cette volatilité, donc ces grands mouvements, refuser aussi ces rendements stratosphériques certaines années. Et ces rendements extrêmement puissants hein, sur 20 ans, parce que quand on regarde sur 20 ans les rendements, il y a de la vraie puissance. Et là, quand on parle en gestion de patrimoine, il y a des clients qui nous disent, mais monsieur, l'Amérique, elle existe depuis toujours. Il y a 20 ans, on achetait un ETF, on dormait dessus, on se voyait un an pour déjeuner, et voilà le résultat qu'on aurait aujourd'hui, et peu l'ont fait. Donc maintenant, ma question, c'est qu'est-ce que vous pensez apporter, entre guillemets, à un épargnant? Qui va venir vous confier. Donc, on est dans un fonds, donc je ne vais pas le qualifier de value, mais ça
D'accord.
mordait tellement la langue que je voulais le dire. Donc on est dans un fonds, on va dire, dans le sens de la value. C'est pas un fonds value tel que vous le décrivez, mais on est dans le sens de la value, du dividende, de qu'est-ce que vous attendez de ce fonds? Et qu'est-ce que vous pouvez aussi dire à un épargnant, voilà, achetez mon fonds parce que ça et ça, et parce que c'est comme ça que vous allez l'intégrer dans votre logique d'épargne, dans votre logique patrimoniale.
Alors, il y a beaucoup de questions en une, hein.
Ah ben
Donc,
oui.
je vais les prendre une par une. Alors, on va commencer par le commencement. Déjà, le gérant du fonds, il s'appelle Éric Lafrenière. Comme on l'indique, on ne l'indique pas d'ailleurs, il est canadien, donc il est nord-américain. Et surtout, il a une particularité, c'est que pendant 20 ans de sa vie, il a géré des clients particuliers. Donc, il a déjà une appétence dans la gestion de son actif, de la connaissance d'un client particulier, de ce qu'il peut attendre, de cette crainte de la volatilité dont vous parlez. Donc ça, c'est un premier sujet, c'est extrêmement important parce qu'un gérant qui gère des fonds, sans avoir forcément la connaissance de ce qu'est un client particulier, de ses attentes, de ses peurs, de ses craintes et autre chose, ça change un petit peu la donne. Donc là, en l'espèce, c'est quelqu'un qui connaît bien la psychologie du client particulier. Ça, c'est un premier point qui, de mon point de vue, est extrêmement important. Maintenant, on a décidé, effectivement, dans le fonds dont on parle, d'avoir deux poches. Alors, j'ai centré, l'introduction sur la partie dividende, mais en fait, il y a deux poches dans ce fonds. Il y a une poche de dividende et une poche multithématique, dans lequel on ne s'interdit pas d'aller chercher des boîtes thématiques, du Nvidia, du Apple, du Microsoft. L'idée, c'est qu'en fait, on va piloter ces deux poches en fonction de là où se trouve le marché et surtout en se disant, il y a deux types de clients. Il y a les clients qui ne sont jamais allés sur les États-Unis et qui se disent à un moment donné, ben, j'aimerais bien y aller, mais j'ai un peu peur parce que je ne sais pas si c'est trop cher, si ceci, si cela. Et c'est assez légitime de se poser plein de questions sur un actif qu'on ne connaît pas forcément et sur lequel on n'est jamais allé. Et on s'est dit, nous, pour cela, ce qu'il faut, c'est qu'on ait une poche, donc cette poche de dividendes dont on a parlé tout à l'heure, qui puisse être réassurante en se disant que si demain, et c'est ce qui s'est passé au cours des dernières années, hein, toutes les années où ça a été un peu chahuté, on s'aperçoit que la poche de dividendes, elle fait très bien son travail, parce que si ça chauffe un petit peu, cette poche-là, elle baisse moins que le reste. Donc ça, c'est un premier élément pour ceux qui n'ont pas eu l'habitude de le faire. Et puis d'autres qui se disent, ben, moi, j'y suis déjà, mais finalement, j'ai déjà gagné très bien ma vie, j'ai pas envie de partir. Je veux bien y rester, mais avec un niveau de risque pas exactement le même. Et donc, dans ce cas-là, ça s'adresse aussi à ces gens-là, de dire, OK, très bien, vous étiez sur des fonds pure techno, par exemple. Bah, si vous venez sur ce fonds-là, vous allez avoir un mix entre de la techno ou de la multithématique, et puis à côté, une poche de dividendes. Et de nouveau, vous aurez un peu moins de volatilité. L'idée, c'est qu'on essaye d'avoir un spectre le plus large possible en disant, on va quand même essayer de capter de la performance, voilà, soit par les dividendes, soit par les thématiques qui vont avoir du sens. Les thématiques du moment, c'est toujours la même chose, hein, c'est la relocalisation de l'économie américaine avec notre ami Donald Trump, c'est la cybersécurité, c'est d'autres choses, d'autres thématiques qu'on peut avoir, le changement des modes de consommation de demain. L'idée, c'est d'avoir un fonds quand même relativement large, parce que l'économie américaine est relativement large, mais surtout d'avoir une approche pour laquelle, si demain ça chauffe un peu, ce qui a été le cas d'ailleurs depuis le début de l'année, hein, on voit bien que depuis le début de l'année, cette poche de dividendes a très bien fait son travail, parce que finalement, elle a permis de mieux résister dans des moments où ça a chahuté très fort.
Quelle est
Donc,
la
c'est.
rentabilité du fonds depuis le début de l'année?
Ben là, on est autour de moins 3.
De moins 3. Et
Ouais.
si on prend, si on prend les marchés américains et que vous vous comparez à ces marchés américains?
Alors aujourd'hui, oui, aujourd'hui, le gros avantage de ce qui s'est passé depuis le début de l'année, vous parliez d'ETF tout à l'heure, c'est que depuis le début de l'année, la gestion active aux États-Unis, elle fait mieux que la gestion passive. Donc ça, c'est un changement de paradigme qui est extrêmement important. Alors pourquoi elle fait mieux? Et ça, c'est une question qu'on doit se poser tout le temps. Elle fait mieux tout simplement parce que dans les indices, a fortiori aux États-Unis, plus qu'en Europe d'ailleurs, hein, dans les indices aux États-Unis, le poids des valeurs technologiques est extrêmement important. C'est-à-dire que Nvidia, c'est 5,5% de l'indice, Microsoft, c'est 6,20% de l'indice, Apple, c'est 6,4% de l'indice, Google, c'est 4% de l'indice. Donc, le surpoids de ces grandes valeurs technologiques américaines fait que quand le marché se retourne un peu, bah comme les poids sont dissymétriques à l'intérieur des indices, bah évidemment, la gestion active, tout d'un coup, fait un peu mieux parce que nous, le choix de nos valeurs, qui n'est pas de coller à ces valeurs-là, fait que si les valeurs qu'on a choisies fonctionnent mieux, bien évidemment, on a de meilleurs résultats. Et c'est exactement ce qui s'est passé depuis le début de l'année. Et c'est le gros avantage de ce type de gestion, c'est que quand ça chauffe un petit peu, bah évidemment, la gestion active retrouve ses canons de beauté, j'ai envie de dire, et elle permet de refaire le travail. Et ça, c'est un autre élément qui est extrêmement puissant.
Alors, quand on parle de fonds américains, il faut aussi parler du dollar. Donc, quand vous nous annoncez un moins 3, comment il fonctionne votre fonds? C'est un moins 3 et 3 points de Wes, on les droits au dollar. C'est un moins 3 et on doit un point de frais de change parce que vous avez couvert et donc on paye la couverture. Comment ça se passe par rapport à l'euro? Pour un investisseur en euros?
Pour un investisseur, nous, le moins 3, il est net du dollar. C'est-à-dire que dans la poche de l'investisseur, c'est moins 3. Si on avait couvert le risque de change, on serait positif aujourd'hui. Mais nous, ce qu'on veut, c'est évidemment aussi avoir accès au dollar. Alors, il se trouve que le dollar est passé de 1,02 à 1,15, il est aujourd'hui à 1,10. Voilà. La parité, on en est assez loin aujourd'hui. Est-ce que la zone d'équilibre, c'est 1,10, 1,15? Là, il faudrait rentrer dans des discussions un peu plus macroéconomiques par rapport à ce que cherche à faire Donald Trump sur les taux d'intérêt. Enfin, il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte, mais aujourd'hui, nous, on veut avoir quelque chose de pur. Donc, la performance, elle est pure en dollars. Et si effectivement le dollar revenait à la parité qui était le cas en début d'année, le fonds serait positif. Mais voilà, donc nous, on donne accès tout simplement une part en dollars. C'est effectivement plus simple pour nous et c'est plus simple pour le client final. Pour le coup, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise et on sait à la fin ce qu'on a acheté. Voilà, on essaye de faire quelque chose qui est le plus pur possible.
Est-ce que c'est en réflexion chez vous d'avoir une part hedgée, donc une part couverte?
Pas du tout.
Pas du tout.
Non, ce qui est en réflexion, c'est nous, c'est de faire un fonds sur notre ADL historique, qui est un fonds obligataire, daté sur de la dette et mis en dollars.
Donc, et là aussi, avec le risque de l'art.
Absolument. Aujourd'hui, créer un fonds en dollars, ou d'ailleurs acheter un fonds en dollars avec un dollar à 1,12 versus 1,02 il y a 3 mois en arrière, ça a également du sens parce que c'est un moteur de performance complémentaire. Alors après, il peut aller à 15, il peut aller à 1,30, on peut tout imaginer. Et là, après, c'est en fonction effectivement de
Moi, je veux
ce qui
bien,
va se
Christophe,
passer.
mais la dernière fois que j'étais aux États-Unis, le dollar, il était à 1,47 ou 1,48.
Ouais. Après, les choses évoluent quand même relativement vite. La politique de Trump peut quand même. Enfin, on a entendu beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Sauf que moi, ce qui me gêne un petit peu dans tout ce qu'on a entendu, c'est que les gens paraissent tous surpris. Je ne vois pas en quoi on est surpris. Enfin, je ne vois pas où est la surprise. Il a dit pour l'instant et fait ce qu'il avait dit depuis le début. Alors certes, je ne parle pas de la forme, hein, je mets ça de côté, hein, je laisse ça aux éditorialistes politiques qui n'ont pas grand-chose d'autre à dire que parler de la forme, mais je parle sur le fond. L'objectif, il est assez basique, hein, c'est de faire baisser les taux d'intérêt aux États-Unis, voilà, pour que la charge de la dette soit moins forte et qu'il puisse, dans un temps numéro 2, appliquer le programme pour lequel il est élu, c'est-à-dire faire baisser les impôts des Américains qui gagnent moins de 150 000 dollars par an. C'est ça le programme de Trump, hein. Alors après, on peut dire c'est moche, il parle pas bien, il dit des gros mots, machin. Ok, très bien, mais
Alors
moi
là,
je réfléchis un peu à
on
ça.
a pour l'instant les taux longs qui remontent et le
Oui.
paquet de baisse fiscale qui a été rejeté par le Congrès où il a contraint la majorité.
Exactement. Non, mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Mais l'objectif, il est là. Et la pression qu'il met sur la Banque centrale américaine, c'est effectivement pour faire baisser ses taux longs. Parce que nous, en France, ou en Europe, on se plaint de la dette de nos différents États. La dette américaine, c'est un énorme poids dans l'avenir de l'économie là-bas.
Alors ça,
Hein.
on parlera de la dette. On parlera de la dette après l'édito. Comme vous le savez, l'édito, il va porter sur la dette. Merci beaucoup, Christophe. Merci
Avec plaisir.
beaucoup, Sonny. Vous nous rappelez le nom du fonds?
Le fonds, il s'appelle Sunny North America.
Sonny North America. Bon, eh ben, c'est un fonds qu'on suivra dans le temps, qu'on a déjà commencé à mettre dans certains de nos portefeuilles et on continuera sans doute. C'est maintenant au tour de Thomas Brunier de Lazard Frères Gestion. Vous restez avec nous, Christophe, et vous reviendrez sur le débat tout à l'heure. Bonsoir, Thomas.
Bonjour Bernard, désolé
Voilà.
pour le retard du début.
C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Alors, on va se concentrer sur la gestion action européenne, et tout ça, bien sûr, chez Lazard Frères Gestion. Donc, je vous propose, comme à Christophe tout à l'heure, 1 minute sur Lazard pour nous rappeler Lazard Frères Gestion pour nous rappeler qui est cette société de gestion, qu'est-ce qu'elle fait. Ensuite, un petit peu sur la gestion action globale de la maison. Et après, on se concentre sur vos fonds européens. Christophe va parler de l'Amérique, vous nous parlerez de l'Europe. Je suis assez à l'aise avec vous, puisque dans vos maisons, il y a les deux fonds. Et on verra vers où il faudrait plutôt voguer dans les semaines, les mois ou les années à venir. C'est à vous, Thomas.
Merci beaucoup. Donc Lazard Frères Gestion, c'est donc la société de gestion du groupe Lazard en France. On gère un peu plus de 40 milliards d'euros. On a une croissance des encours assez régulière depuis de nombreuses années. On est présent sur toutes les classes d'actifs, les actions, les obligations et le diversifier. On a également une compétence sur les convertibles. On a une culture gestion privée, hein, puisque c'est notre ADN et notre origine. On a une gestion privée chez Lazard à Paris qui représente une part non négligeable de nos encours. Sur les actions, donc on gère 12 milliards d'euros, l'essentiel, c'est-à-dire autour de 8 milliards, et sur les actions européennes, qui sont donc notre plus grosse zone de compétence. On a une équipe sur les actions d'une vingtaine de personnes, dont 15 professionnels de l'investissement, hein, donc analystes gérants. Sur l'Europe plus spécifiquement, on est 8 analystes gérants à intervenir sur ces stratégies, à la fois en tant qu'analyste et à la fois en tant que gérant, puisque dans notre organisation et notre philosophie, tout vient de l'analyste et donc on considère que tout le monde dans l'équipe doit être avant tout analyste avant d'être gérant.
Alors, j'ai une question là-dessus, quelque chose qui m'intéresse. Dans ce côté analyse qui semble être extrêmement important pour vous, l'analyse, vous la créez en interne et vous la faites en interne ou vous achetez beaucoup d'analyses que vous réanalysez derrière?
Alors, on fait l'analyse en interne. C'est-à-dire qu'on, pour faire cette analyse, on a toute la documentation disponible, les rapports annuels des entreprises, leurs publications, leurs présentations. On rencontre systématiquement les managements des entreprises avant d'investir, donc on a aussi ce contact. Chaque analyste a toute son expérience pour appréhender à la fois les enjeux d'un secteur et les enjeux d'une entreprise, et donc faire cette analyse. Après, on s'appuie aussi sur des analyses externes. On a accès à toute la recherche des brokers, donc des analystes qu'on appelle sell-side, qui est une recherche qui est disponible pour tout le monde et qui nous aide à vérifier certains points, à construire aussi nos cas d'investissement. On s'appuie aussi sur des prestataires qui nous donnent accès à des rencontres avec des experts de certains secteurs qui peuvent aussi nous aider, mais l'analyse, elle vient vraiment de notre travail interne. On fait un modèle de prévision de résultats sur Excel pour toutes nos sociétés. Et donc, c'est vraiment ce qui prime. Mais on se nourrit de beaucoup, beaucoup de sources pour affiner au mieux cette analyse.
Ok. Alors, revenons au sujet principal. Si on regarde les 20 années passées derrière nous, c'est évident qu'il fallait investir aux États-Unis, c'était plus intéressant d'investir aux États-Unis qu'en Europe. Je ne vais pas essayer de vous engager sur les 20 prochaines années parce que ça relève plus du pari que de l'analyse, mais on va dire un espèce de moyen terme, de court terme, moyen terme, 6 mois, 3 ans. Aujourd'hui, donc chez Lazard, est-ce que vous voyez une opportunité à rester en Europe pour ceux qui ne sont pas partis aux États-Unis ou à revenir des États-Unis sur l'Europe? Est-ce que vous pensez que l'Europe boursière va donner de belles satisfactions et en tout cas de meilleures satisfactions que les US dans les 6 mois, 3 ans à venir? Quelque chose comme ça, donc un espèce de long court terme et court moyen terme.
Alors la réponse c'est oui, mais je vais quand même détailler. Déjà, on a fait tout un travail justement pour essayer de mieux comprendre la surperformance récente des actions européennes. Il y a un premier constat, c'est qu'effectivement, donc la performance des actions américaines était nettement meilleure que l'Europe, ça c'est sans appel. Nous, on s'est penché sur les 10 dernières années pour essayer de comprendre comment cette performance s'était faite. En gros, hein, la performance d'un marché action, ça vient de deux choses. C'est la croissance des bénéfices des entreprises et c'est le niveau de valorisation accordé par les investisseurs à un marché. On mesure souvent avec le PER. Et ben, quand on compare action américaine par rapport à action européenne sur 10 ans, sur la première partie, qui est censée être le moteur principal de performance, la croissance des bénéfices par action, l'écart n'est pas si important que ça. En gros, les sociétés américaines sur 10 ans ont une croissance de résultats qui est autour de 7%. La croissance des sociétés européennes est autour de 6%. C'est quand même à l'avantage des US, mais l'écart, en fait, ça nous a surpris, hein, quand on a fait le travail. Il est moins marqué que ce qu'on pensait. Quand on regarde, par contre, le niveau de valorisation des deux marchés, là, on a un écart qui s'est creusé de façon colossale. C'est-à-dire que en 2014, en gros, les actions américaines, quand on regarde le PER année N, on était quasiment sur le même niveau que les actions européennes. Il y avait pas vraiment d'écart. Et au fur et à mesure des années, l'écart s'est creusé. En gros, les actions américaines ont pris 10 points de multiples, sont passées de 16 à, non, de, oui, de 16 à peu près 23, 24, alors que les actions européennes ont eu une contraction de multiples passée de 16 à peu près 13, 14 fois. Et finalement, le multiple de valorisation, c'est le reflet d'une chose, hein, c'est évidemment le reflet des flux qui sont dirigés massivement vers les actions américaines, et c'est aussi une histoire de prime de risque qui s'est exacerbée en Europe depuis la guerre en Ukraine, qui a mis en avant un certain nombre de risques. Donc aujourd'hui, on a un écart de valorisation qui est très fort. Finalement, un écart de performance des entreprises qui n'est pas si élevé que ça. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on a vu en Europe, nous, on pense que la prime de risque sur les actions européennes devrait baisser, avec enfin la prise de conscience qu'il faut investir dans la défense, le plan allemand
Là,
qui
t'as une
indique une
seconde.
dynamique différente. Oui.
Juste avant de passer à ça, parce qu'on est quand même tenu par le temps. J'ai
Ouais.
juste une question et après, on se concentre vraiment sur l'Europe, la défense, le plan, les big, les mid-cap pour y aller. Il y a quelque chose qui est à peu près normal dans tous les biens qu'on peut acheter. Pas typiquement que les actions, mais dans tous les biens. Il y a des endroits où ils valent plus cher que d'autres. Tout simplement parce qu'il y a des différences dans ce qu'on appelle la valeur et le prix. Un des exemples les plus frappants, c'est quand vous regardez les biens de luxe, ils se vendent moins cher à Paris qu'à New York et qu'à Tokyo. Parce que c'est pas parce qu'ils doivent prendre l'avion pour faire le voyage et aller dans les boutiques là-bas, c'est pas du tout ça la raison. C'est tout simplement qu'à New York et à Tokyo, c'est des biens qu'on est prêt à payer plus cher. Et j'ai l'impression que les Américains sont des gens qui sont prêts à payer plus cher leurs entreprises, surtout leurs entreprises qu'ils estiment être des entreprises de qualité. Et donc, on se retrouve avec ce PER donc, qui montre le nombre de fois qu'on achète les résultats. Et aux États-Unis, l'Américain moyen, comparé au Français moyen que je suis, il va dire, OK, c'est une super boîte, moi, je veux bien la payer 23 ou 24 fois les résultats, alors que moi, je vais regarder une société dans mon univers européen et je vais dire, c'est une très belle boîte, mais déjà à 18 fois, ça me paraît très, très cher et je vais peut-être pas vouloir l'acheter parce qu'elle vaut ça. Et ça, je pense qu'on l'aura toujours. Je pense qu'on l'aura vraiment toujours et que c'est aussi une des raisons qui a fait que le marché américain a plus cru dans le temps parce qu'au fur et à mesure du temps, les Américains ont pris conscience que leur société de qualité valait un effort pour les acheter, alors qu'en France, non. Alors, en 30 secondes, si vous voulez bien répondre à ça, et après, on passe vraiment sur le mortard, sur les actions européennes.
Oui, c'est sans doute vrai. En fait, une des grosses différences, hein, c'est que aux États-Unis, il y a un flux entrant sur le marché action qui revient un peu à ce que vous venez de dire, hein, qui est naturel. C'est-à-dire les ménages américains, en gros, ils épargnent 7% de leurs revenus par an, et ces 7%, ils vont quasiment intégralement dans le S&P 500. Ils n'achètent que des valeurs américaines, et en plus, ils achètent beaucoup d'actions. Ça représente 500 milliards de dollars chaque année qui rentrent. Après, il y a les sociétés américaines qui font des rachats d'actions de façon systématique. Et ça, c'est un trilliard de dollars. Donc, on a 1,5 trilliard de dollars qui rentrent naturellement sur le marché et qui ne regardent pas le niveau de valorisation. Donc, que ça va 15 fois ou 25 fois, finalement, ça leur est complètement égal. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas tout à fait en Europe. C'est là où il faudrait qu'on travaille. Alors, les rachats d'actions, c'est quelque chose qui est en accélération, donc qui va donner de plus en plus de flux vers le marché. Et par contre, sur l'épargne des particuliers, elle va plutôt vers le livret A et pas spécialement, en tout cas pas assez vers les actions. Donc on a ces flux techniques qui expliquent une grande partie. Je pense pas que ce soit nécessairement les gens qui disent en Europe, non, moi je veux pas payer cher. C'est effectivement, on achète ce qui est disponible sur le marché. Et l'écart
Alors,
de valorisation,
pour
ouais.
faire la transition, désolé
Ouais.
de vous contraindre, mais pour faire la transition, il y a très longtemps, quand j'étais stagiaire, il y avait un directeur du trading américain qui m'a dit, nous les Américains, on achète cher pour vendre encore plus cher, et vous les Français, vous voulez acheter pas cher pour vendre cher. Voilà, food for thought, comme on dit, ça va clôturer là. Et maintenant, si on
Ouais.
vient à nos trois sujets, donc la gestion européenne chez Lazard Frères Gestion. Ce fonds défense auquel vous pensez que vous allez peut-être sortir, ou ces valeurs défense que vous n'avez cessé d'intégrer dans cette gestion européenne depuis quelques mois. Et après, juste une question joker. J'ai l'impression que les petites et moyennes valeurs sont en train de faire un retour par la petite porte. On les attendait il y a 2 ans par la grande porte. Elles sont pas venues. Et là, on a l'impression qu'il y a un mouvement par la petite porte qui est en train de se profiler. Est-ce que c'est aussi votre impression? Voilà. Et malheureusement, on a 3-4 minutes pour ces trois sujets et pas plus. C'est à vous.
Ok, bon, alors sur la première question, le cœur pour nous dans notre gamme en termes d'action européenne, donc c'est un fonds qui est zone euro qui s'appelle Lazard Equity SRI, qui est un fonds qu'on gère, qu'on a créé en 2001, qui est géré toujours de par le même gérant, qui est un fonds où on va acheter des entreprises rentables en croissance avec toujours une attention assez forte à la valorisation et vraiment. L'idée d'acheter des sociétés de qualité avec des revenus visibles, c'est ce qui a construit le track record qu'on a sur la durée avec un fonds qui a une performance qui est supérieure à l'indice sur la plupart des périodes avec une volatilité qui est plus faible. Et c'est vraiment l'état d'esprit de ce fonds. Vraiment d'investir dans des très bonnes entreprises. Sur la défense, en quelques mots, beaucoup travaillé sur ce sujet. Il y a un changement qui est majeur sur la visibilité qui est offerte aux sociétés du secteur de la défense. Si on passe à 3%, 3,5%, 4% de dépenses de défense sur PIB en Europe, ça correspond à une croissance qui est massive, qui sera accélérée par le fait que cette augmentation du budget de dépense, elle va aller principalement vers les équipements et pas spécialement vers des recrutements ou de la main-d'œuvre. Et puis de plus en plus, on va essayer de produire européen. Donc il y a des effets des multiplicateurs qui nous semblent assez favorables et qui peuvent complètement changer la trajectoire sur ces entreprises. On a la perspective d'un cessez-le-feu en Ukraine qui pourrait être perçu négativement par le marché et qui peut créer des points d'entrée assez intéressants parce que cette perspective de cessez-le-feu, elle ne change absolument rien à la nécessité de réinvestissement, bien au contraire, parce qu'elle a l'air de se faire dans des conditions qui sont assez angoissantes, on va dire, pour le reste de l'Europe. Donc nous, on a effectivement intégré des titres de défense dans la plupart de nos portefeuilles avec des timings différents en fonction des contraintes des différents fonds. On est effectivement en train de réfléchir à un fonds plus souveraineté avec un cœur assez important sur la défense. Pour l'instant, contrainte réglementaire fait que je peux pas en dire plus, mais en tout cas, on met beaucoup, beaucoup de ressources pour faire en sorte de sortir le plus vite possible et on espère avant l'été avec ce fonds.
D'accord. Alors, juste une petite question sur la défense. Alors, les valeurs de défense aujourd'hui, elles sont déjà chères si on regarde le prix qu'on paye par rapport aux résultats. Et là, je pense qu'il y a une question de paradigme et de compréhension du monde de demain. Donc, si on va vers un monde qui se réarme, donc l'ensemble des pays se réarment, créent des stocks d'armement, créent des capacités dissuasives ou des capacités à envoyer des armes massivement à des alliés ou des choses comme ça. C'est-à-dire, en fin de compte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Europe, puisque c'est ce qui nous intéresse, se mettrait dans la situation des États-Unis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le seul pays qui est vraiment armé pour envoyer des armes partout dans le monde, pour déployer des troupes, pour faire la guerre ou pour aider ses alliés à faire la guerre, c'est les États-Unis. On ne peut pas les prendre par surprise. Ils ont ce qu'il faut. On le voit avec l'Ukraine, on le voit avec Israël. Ils ont aidé les deux pays simultanément, ils sont partis bombarder le Yémen en même temps, et ils ont toutes les capacités nécessaires pour continuer à envoyer des armes, puisqu'ils en vendent à leurs alliés, et les carnets de commandes sont pleins. Donc ça veut dire que si l'Europe se met dans cet état d'esprit, est-ce que nos valeurs de défense européenne pourraient dans 3, 5, 7 ans valoir le double ou le triple de ce qu'elles valent aujourd'hui, parce que les profits auraient monté, et donc on aurait ça, ou est-ce qu'il ne faut pas s'attendre à un changement de telle nature? Mais juste peut-être à une hausse graduée avec le temps légèrement supérieure à la hausse de l'indice.
En fait, il y a une hausse qui a été assez brutale et qui a été nourrie par un flux de nouvelles quand même assez radical depuis le début de l'année et depuis la nouvelle administration américaine, on va dire. Donc, on a fait quand même à très court terme une bonne partie de la performance. Par contre, effectivement, on est sur des sociétés qui peuvent avoir un volume d'activité qui va faire x2, x3, x4, un horizon de 10 ans. Donc, on pense qu'il y a forcément une pause et une digestion de la performance très forte qu'on a eue depuis le début de l'année. Mais que les perspectives long terme, elles sont bonnes. Et en fait, pour l'instant, on n'en est même pas à reconstruire des stocks de munitions et reconstruire des équipements qui nous permettent de projeter des forces comme les Américains. On en est à faire en sorte de pouvoir défendre nos territoires. Et là, pour l'instant, on n'y est pas. Donc l'effort, il est colossal. Hein. Donc effectivement, le problème dans ce secteur, c'est que c'est un secteur au temps très long. C'est-à-dire que là, on en est à mettre des budgets en place. Dans 2 ans, on va recevoir les commandes et puis dans 2 ans, on les livrera, voire 3 ans, voire 4 ans. Donc, il faut vraiment s'inscrire dans un temps très long avec ces sociétés. C'est pour ça que je reviens sur l'histoire du flux de nouvelles. Là, le flux de nouvelles, il va se calmer et en fait, les prises de commandes, elles sont plutôt pour l'année prochaine ou l'année d'après. Donc, il faut s'exposer à ces secteurs en se disant que les perspectives, comme vous l'avez dit, hein, à 4-5 ans seront très bonnes, mais en acceptant d'être patient parce que c'est un secteur qui vit avec des à-coups. Voilà.
Alors, il faudra renforcer au fond du camp.
Ouais, et je pense
Alors.
qu'effectivement, s'il y a une annonce de cessez-le-feu, c'est un secteur qui corrigera. Et ça peut donner des occasions intéressantes d'aller s'exposer vers les meilleures boîtes dans le secteur.
D'accord. Allez, 30 secondes avant l'édito, les small et mid cap qu'on attendait par la grande porte il y a 2 ans, est-ce qu'elles sont en train de revenir par la petite porte ou alors pas plus que ça? Comment vous analysez ça chez vous?
Sur les small caps, en fait, il y a deux éléments qu'il faut avoir pour avoir une surperformance. Il faut avoir des taux qui soient redevenus plus accommodants et puis il faut une aide de la macro, hein, parce que les small caps sont beaucoup plus dépendantes de l'économie domestique que les large caps, hein. Donc les petites entreprises, elles ont besoin d'une Europe qui se réveille en termes de croissance de PIB. Donc, effectivement, le plan allemand, les 500 milliards qui ont été avancés, ont entraîné très très vite une surperformance, notamment des mid-cap allemands, des small-cap de façon générale, parce qu'on a l'impression que ce plan-là peut permettre d'inverser la tendance sur la croissance économique en Europe. Donc, je pense que c'est ça qui change cette année. L'histoire des taux, on l'avait déjà en place. Nous, on a pas mal étudié l'impact des taux sur les small caps. Les small caps, suite à une baisse de taux de la BCE, ont toujours fini par surperformer les large caps, mais il faut 6 ou 12 mois avant de le mettre en place. Et en fait, la baisse de taux, la première baisse de taux de la BCE, elle date du milieu de 2024. Donc c'est maintenant normalement que la surperformance se met en place. Là, on a un peu plus d'idées positives sur la croissance économique européenne. Donc, c'est peut-être la petite porte, mais nous, on pense la porte peut s'agrandir et que c'est une classe d'actifs qui peut redevenir vraiment, vraiment intéressante après des années de sous-performance.
Allez, super. On passe à l'édito. Reste avec nous, vous allez enchaîner sur les débats après. La dette est-elle vraiment si importante que ça? On aime tous parler de la dette, on aime encore plus dire que c'est très grave, que c'est fini et qu'on est allé au bout du bout et que maintenant c'est la fin. Mais en même temps, on en remet une couche à chaque fois. Et le monde continue à tourner, la France aussi. Il y a très longtemps, les royaumes s'endettaient et quand ils étaient surendettés, ils faisaient une guerre ou quelquefois la perdaient. Faute de pouvoir lever ou payer des troupes. S'ils ne voulaient pas guerroyer, ils jetaient en prison leurs créanciers, les pendaient haut et court ou les expulsaient du royaume. Mais en ces temps-là, il n'y avait pas vraiment de monnaie. C'était plutôt de l'or et de l'argent en pièces. Puis est venu le temps de la monnaie et la mauvaise gestion ou le manque de rigueur se payait par une baisse de la valeur, une dévaluation ou une banqueroute avec une monnaie qui ne valait plus rien. Mais on s'en sortait. On connaît tous l'ancien franc et le nouveau franc. On n'est pas les seuls à l'avoir fait. On a tous vu dans les manuels d'histoire les brouettes allemandes chargées de billets. Avec le temps, on a compris qu'une banque centrale qui empruntait dans sa propre monnaie ne pouvait faire faillite. Le Japon est un spécialiste en la matière avec une dette au-delà de 200% du PIB. Si je remonte dans le temps et que je réfléchis avant l'euro, l'excès de dette a toujours apporté malheur et désolation, si ce n'est sang et larmes. Puis est arrivé l'euro, et là, on a mis des règles, oui, qui bien sûr n'ont pas été tenues. Mais tous les malheurs qu'on aurait dû avoir du fait de notre dette, on ne les a pas eus. Car chez les autres, ce n'est pas mieux, à l'exception sans doute de la Suisse. Et là, il n'y a pas photo, ça s'est joué à l'ancienne, le franc suisse a explosé. La situation aujourd'hui est un peu différente. C'est la France au sein de l'Europe et le reste ne pose pas vraiment de problème. En France, nous ne sommes pas capables de gérer notre dette par la baisse des dépenses, puisque nous ne l'avons jamais fait depuis le milieu des années 30. Donc les dépenses ne baisseront pas. Nous ne pouvons pas non plus trop monter les impôts des riches ou des entreprises. La mondialisation et la digitalisation les ont rendus plus mobiles que jamais. Il va donc falloir monter les impôts des masses pour donner des gages à l'Europe. On les a préparés en commençant par les riches et ensuite ce sera un tour de passe-passe organisé par l'Europe. Et si vous croyez qu'après ce tour de passe-passe, on restera à zéro, vous vous trompez, on repartira de zéro. Et vous, qu'en pensez-vous? Et comme toujours, c'est David qui va commencer à nous dire ce qu'il en pense. Alors, il y a plusieurs sujets là-dedans. J'ai volontairement pris des sujets un peu historiques, des sujets un petit peu plus techniques, des sujets de comparaison. David, vous en piquez un au hasard, vous rebondissez dessus et nos autres invités en prendront un autre.
Merci Bernard. Ce qui est très intéressant dans ce que vous dites la dette finalement, c'est pas si grave que ça. J'ai toujours envie de dire, la dette, on s'en fiche jusqu'à ce qu'on s'en fiche plus. C'est-à-dire que c'est binaire. Il y a un moment donné où ça devient trop. Vous citez le Japon en disant, oui, le Japon, ils ont 200% et c'est pas grave du tout. Le Japon, ils ont des taux d'intérêt extrêmement faibles. Voire c'était zéro pendant des années, bien avant que nous, en Europe, on passe à taux zéro et en taux négatif. Et donc, effectivement, le sujet de la dette, c'est pas le sujet de la dette, c'est le sujet de la charge des intérêts. Dans un budget, vous êtes un État, vous avez un budget chaque année, et dans ce budget, vous avez, avant de démarrer l'année, hein, vous démarrez votre page blanche, vous avez déjà combien d'intérêts vous devez payer pour servir votre dette. Donc, si vous avez des intérêts à zéro ou proche de zéro, que vous ayez 1 milliard, 1 000 milliards ou des centaines de milliers de milliards, etc., de dettes, comme vous avez zéro d'intérêt à payer, finalement, c'est pas si grave. Le sujet, c'est lorsque ce taux d'intérêt, il augmente, au bout d'un moment, donc ça veut dire que la charge d'intérêt augmente, ça veut dire que ces intérêts prennent plus en plus de place dans votre budget de l'année et vous empêchent de payer votre système de santé, la police, les écoles, l'éducation, etc. Et à un moment donné, ça vous empêche même de payer ben, les retraites, comme on l'a vu en Grèce et en Espagne ou au Portugal. Donc, en fait, le sujet, il est là. C'est que tant qu'on n'arrive pas, tant que cette charge d'intérêt ne nous empêche pas de mener une vie normale au niveau de l'État, effectivement, il n'y a pas de limite. En revanche, cette limite, c'est binaire et on ne sait pas trop estimer, moi je ne le sais pas et généralement les marchés ne le savent pas non plus, à quel moment trop c'est trop, à quel moment ça bascule. Mais ce que l'on sait, c'est que ce moment, il existe et c'est ça qui nous fait peur et c'est pour ça qu'on entend autant de personnes dire, ah oui, mais la dette, attention, il va arriver des catastrophes et des catastrophes. Voilà,
Allez, je vous
c'est
arrête.
juste
Et
mon code.
Christophe, soit vous prenez un autre sujet, enfin un autre sujet, une autre ligne qu'il y avait dans l'édito et vous la développez, soit si vous avez un avis contraire de David, vous répondez à David. Si vous partagez l'avis de David, ce n'est pas la peine de le dire. On passe à autre chose.
Alors, je parle pas de David, alors je le laisse dans son coin, c'est un temps pour lui. Je rebondis sur un point qu'on a évoqué au tout début en préambule sur les États-Unis. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement important parce qu'effectivement, je partage ce que vous disiez dans l'édito. On peut imaginer de s'en ficher de la dette. Sauf qu'à un moment donné, si elle pose un problème de déploiement d'une politique économique dans un sens ou dans un autre, c'est là qu'est le réel problème. Et c'est toujours difficile de décorréler la dette de la réalité de ce qui se passe au quotidien, à la fois pour les entreprises, mais aussi pour les ménages. Et au bout du compte, c'est ces gens-là qui font tourner l'économie, ce sont ces gens-là qui font tourner le business. Donc si ces gens-là, on n'arrive pas à les intéresser d'une manière ou d'une autre à ce qui se passe, et que la politique qu'on doit mener, elle est contrainte parce que la dette, le poids, les intérêts sont trop importants, c'est là où ça pose un problème, et c'est ça qui pose un problème au marché financier. Parce que si on parle des marchés financiers, ce que n'aiment pas les marchés financiers, c'est l'absence de visibilité. Et effectivement, plus la dette se développe, plus le poids de la dette est important, plus ça crée de l'invisibilité, plus ça crée de la difficulté à se projeter. Et ça, les marchés financiers n'aiment pas. Ce que les marchés financiers aiment, c'est avoir de la visibilité et se dire, OK, très bien, je vois, ou en tout cas une forme de trajectoire. Et c'est ça qu'a essayé de vendre Trump à ses électeurs, se dire, on va essayer de faire baisser la dette, et une fois que la dette sera à des niveaux plus confortables, on pourra faire baisser les impôts pour que effectivement les ménages qui sont les moins bien lotis aux États-Unis puissent retrouver du pouvoir d'achat, reconsommer et relancer de nouveau l'économie. En fait, notre univers, c'est un cycle, hein. On peut le prendre dans tous les sens, le cycle, hein, mais c'est toujours des choses qui doivent tourner. Et donc là, le vrai sujet de cette dette, il est là. Il faut que et les entreprises et les ménages puissent se trouver dans un moment confortable pour pouvoir régénérer de la croissance. Et si la dette est trop importante, ben on est contraint, on ne peut pas faire ce qu'on veut, et ça pose un problème économique, social, sociétal, si on veut. Et c'est ça le sujet de la dette aujourd'hui pour moi.
Ok, merci Thomas. Donc, soit une réflexion si vous êtes en contradiction avec une des deux réponses qui ont été apportées par David et Christophe, ou alors développer une nouvelle ligne.
Ouais, je pense que je vais peut-être développer une nouvelle ligne. Les conclusions sont difficiles à atteindre, mais la dette, il y a un point qui est essentiel et qui est difficile à voir, c'est finalement ce qu'on en fait. C'est-à-dire que quand on empile de la dette pour donner des prestations à des gens, comme pendant le Covid où il y a eu pas mal d'excès en France, quand on engloutit beaucoup d'argent dans des postes comme l'éducation nationale avec des résultats qui sont finalement assez contestables, cet argent n'a pas de productivité en fait. Mais l'État peut aussi augmenter sa dette en faisant des investissements, investissements dans l'énergie, investissements dans des cadres qui vont permettre aux entreprises de se développer. Et là, accumuler de la dette pour investir et permettre à l'économie de se développer, c'est fondamentalement différent. Et on a du mal à voir exactement dans quel sens on va. Mais je pense que les États-Unis ont été plus forts que l'Europe et que la France, de ce point de vue-là, sur l'utilisation de leur dette. L'autre chose, c'est effectivement, si cette dette, elle permet de faire croître l'économie plus vite, comme c'est le cas aux États-Unis, bah, là aussi, elle est beaucoup plus productive. Et puis au final, le poids de dette sur PIB finira par se réduire. En fait, le problème de l'Europe, c'est qu'on a une croissance du PIB qui est trop faible. Et donc, la dette ne cesse de monter parce qu'elle va plus vite que la croissance de l'économie. L'autre chose, c'est qui la détient. Et ça, c'est quand même un élément fondamental, hein. David parlait du Japon. Une des grosses forces du Japon, c'est aussi que cette dette, elle est détenue par des locaux, en fait. Elle n'est pas vraiment aux mains d'investisseurs étrangers. La dette américaine, elle est détenue à hauteur de 80% par des Américains, que ce soit les ménages, que ce soit les investisseurs, et que la dépendance vis-à-vis du monde extérieur, elle est beaucoup plus faible que ce qu'on pense, hein. C'est que 20%. La France, on est à peu près 50% de dépendance aux investisseurs étrangers pour notre dette. Et ça, c'est quand même une zone de fragilité très forte, hein. Effectivement, quand le marché se tend, c'est cette partie-là qui devient la plus compliquée à gérer. Et ça, je pense que c'est malheureusement une des fragilités de notre pays aujourd'hui, hein. C'est qu'est-ce qu'on fait de cette dette? Qui la détient? Et puis, dernier point que je voulais développer, ouais.
Sur les 50% qui sont détenus par des investisseurs étrangers pour la dette française, à l'intérieur de ces 50%, on inclut la Banque européenne ou on exclut la Banque européenne?
Bonne question. Ça, je n'ai pas le détail. Je ne sais pas si quelqu'un a ça en tête. Mais en tout cas, c'est très beaucoup d'investisseurs institutionnels. Et cette détention étrangère, c'est une zone de fragilité pour la France. Et puis il y en a ce fameux transfert de dette État vers ménage. Et ça, je pense, je reviens sur le point de Christophe aussi, hein, c'est que plus l'État est endetté, moins il a de marge de manœuvre pour relancer son économie. Et puis surtout, plus ces ménages épargnent en face, parce qu'ils sont inquiets de voir leur État s'endetter. Et le taux d'épargne français est très élevé. Parce que les gens sont inquiets de voir leur État s'endetter et se disent qu'à un moment donné, il ne pourra plus assurer ses fonctions régaliennes, il ne pourra plus leur payer leur retraite. Et donc, finalement, au lieu de dépenser dans l'économie, d'investir, ils épargnent de plus en plus. Et ça fait partie aussi de la mauvaise spirale qui est entraînée par trop de dettes d'État.
Mais là, on a un vrai paradoxe, hein. C'est qu'ils épargnent de plus en plus dans le fonds euro des compagnies d'assurance qui elles-mêmes achètent la dette française, hein. Donc, ils épargnent en allant se demander protection à celui dans lequel ils ont de moins en moins confiance. Donc, il y a un
Ah
vrai
oui, tout à fait.
paradoxe ou une vraie incompréhension des mécanismes, ou alors au fond d'eux-mêmes, il y a ce sentiment français que, comme l'État, il imprimera, on peut quand même toujours avoir confiance. Lucas, c'est à vous, donc vous avez le choix. Soit vous faites une conclusion un petit peu de tout ce que vous avez entendu, surtout si vous avez des points de vue contraires. Vous développez une nouvelle ligne et après il y a un micro-sujet que je voudrais aborder avant de passer à David. Allez-y, Lucas.
Deux choses par rapport à ce que disait Thomas, c'est
Lucas, il faut
effectivement.
monter le son ou parler un petit peu plus fort.
Vous m'entendez plus fort là? C'est mieux?
C'est un peu mieux, mais parlez bien fort parce qu'on
Ok,
vous entend plus en
parlez
sourdine.
vraiment plus fort. Donc, ce que je voulais reprendre effectivement, c'est sur qui détient la dette. Effectivement, sur la France, il y a 50% qui est détenu par des institutions étrangères et il y a 20% quand même qui sont détenus finalement par des Français via ce que tu indiquais, Bernard, via l'assurance vie. Donc ça, c'est un point important. Après, ce sur quoi moi je voulais revenir aussi, c'est l'exemple que tu prenais par rapport aux brouettes, parce que je pense que l'histoire de la dette en Europe notamment, elle est fortement liée à l'histoire de nos voisins allemands en fait. Le peuple allemand, il a été vraiment traumatisé par ces dévaluations massives qui ont eu lieu après la Première Guerre mondiale, hein. Et donc notamment, donc encore une fois, avec l'exemple que tu prenais des brouettes de billets. Et donc après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une volonté vraiment d'avoir une monnaie absolument stable. Donc ça, c'était un point clé. Ensuite, donc quand on a eu la fin du système de Bretton Woods avec le taux de change, hein, qui était fixe. Le marque est vraiment devenu une monnaie forte, une valeur refuge. Et donc, alors après, si vous avez une monnaie forte, c'est un inconvénient, hein, par rapport à vos voisins qui peuvent, eux, dévaluer la monnaie en termes de compétitivité. Mais c'est justement, vous avez des produits, vous devez avoir des produits de qualité et c'est le fameux Dutch quality qu'on a eu. Et donc, quand on est entré sur la phase de la construction en fait européenne, vraiment d'un point de vue économique, l'Allemagne qui à l'époque était vraiment la force économique, et ben c'est elle qui a imposé ces conditions. C'est le fameux Francfort à Francfort, hein. C'est donc la BCE qui est basée en Allemagne. C'est les règles qui ont été fixées au départ par l'Allemagne avec les 3% par an, les 60% qu'on pouvait faire au maximum d'endettement. Et au final, ben, on voit que ces règles, elles n'ont pas pu, avec les crises qu'il y a eu, être respectées. Et donc, aujourd'hui, la question, c'est de savoir bah, jusqu'où, c'est le thème du départ, hein, jusqu'où on peut aller. Et c'est là, c'est très compliqué à estimer. Moi, le point, et je finis là-dessus, c'est que sur ce qu'on voit, la vraie différence aujourd'hui, c'est la solidarité au niveau européen. Et puis, il y a cet effet de masse aussi, qui est de dire, bah, voilà, il y a beaucoup de pays qui sont très endettés. Et donc, je pense, alors c'est à titre personnel, mais qu'on est encore loin au niveau de la limite, au niveau de l'endettement, qu'on arrive avant ce fameux plafond qu'on nous indique.
Ok, merci pour tout ça. Alors, juste une précision, pendant j'ai vérifié, donc dans les 50% de dettes non résidentes françaises, la BCE n'est pas inclue. Pourquoi? Parce que la BCE fait ses achats via la Banque de France. Donc l'argent, il circule. BCE, Banque de France, et c'est la Banque de France qui achète. Donc on a vraiment 50% qui sont hors zone euro et hors France. Maintenant, une question où je vais vous laisser 30 secondes à chacun d'entre vous pour répondre et on clôture avec ce sujet et on passe au point marché. Si l'ensemble des grandes zones, c'est-à-dire les grandes zones, on a la zone euro, on a la zone Amérique, on a le Japon, on peut même y inclure l'Angleterre également. Si ces zones-là, d'un accord commun, disaient voilà, on va annuler 20% de l'équivalent de 20% de notre PIB de dette. Et la partie qu'on annulera, c'est uniquement la partie qui est détenue en domestique par nos institutions, donc par notre banque centrale. Donc, on ne va pas, bien sûr, voler des fonds, on ne va pas voler des épargnants, on ne va pas faire ça. On ne touche qu'à la partie qui est détenue par nos banques centrales. Si une partie est détenue par nos banques centrales, c'est parce qu'on a fait du quantitative easing quand il a fallu aider le pays ou la zone à sortir de crise. Donc, ça, c'est l'histoire de la détention. On va tout simplement l'annuler et on se met au même niveau, nous, les quatre blocs. Alors, c'est peut-être de la science-fiction, c'est peut-être la réalité de demain, j'en sais rien. Et les deux questions que j'ai là-dessus, et vraiment une réponse très rapide, est-ce que c'est de l'ordre du possible ou vous pensez que c'est totalement de la science-fiction? Et si jamais quelque chose comme ça ou quelque chose qui pourrait ressembler à ça devait être mis en place, est-ce que vous y voyez un réel danger ou non, ça passerait? Thomas, on commence par là.
Là, je sors complètement de ma zone de confort. Hein. Moi, je suis analyste action. Donc, Je vais le faire de façon intuitive comme je sens les choses, mais bon, pour moi, ce genre de scénario, ça correspond quand même à un défaut. Donc, ça entraîne quand même une appréciation de la dette de tous ces pays qui sera différente de ce qu'elle était auparavant. Et puis, ça entraîne quand même des problèmes au niveau des banques centrales qui vont être obligées d'enregistrer une perte colossale, donc qui vont avoir un bilan qui va se dégrader complètement. Quelles sont les conséquences de ça? Je suis pas forcément capable de le mesurer, mais je suis pas sûr que ce soit si facile que ça, techniquement à mettre en œuvre. Et les conséquences peuvent être peut-être différentes de ce qu'on prévoit avant de lancer ce genre d'action. Donc moi je dirais que c'est quand même très risqué donc je mettrais plutôt ça côté science-fiction. Mais encore une fois,
Ok.
voilà. Avec ma
May the force
compétence.
be
Ouais.
with you. Lucas?
Bah, là-dessus, alors effectivement, hein, je suis d'accord sur le fait qu'on a, c'est très compliqué de pouvoir estimer quelles seraient les conséquences. Après, d'un point de vue historique, on se rend compte que c'est quelque chose qui a déjà eu lieu, hein. Il y a déjà eu des pays qui ont eu une partie de leur dette qui ont été annulées. Le point, hein, c'est que derrière, comme tu disais au départ, c'est que de toute façon, on nous dit toujours qu'on est arrivé à la limite, mais en fait, ça continue. On voit notamment sur la France, on n'imagine pas comment on peut à un moment donné la réduire et qu'on voit même pas comment on va à un moment donné même arriver totalement à ralentir. Donc, in fine, c'est une solution qu'il va falloir, sur laquelle il va falloir réfléchir de toute façon, parce qu'à un moment donné, on n'aura peut-être pas le choix. Voilà, c'est ça mon point.
Ok. Christophe, en 30 secondes.
En 30 secondes, déjà qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur une norme sur la qualité du lait, alors imaginez se mettre d'accord pour annuler une partie de la dette de l'ensemble des États et que tout le monde signe le papier demain matin. Moi, je rêverais que ce soit possible, mais là, c'est même pas de la science-fiction, hein. C'est-à-dire que c'est une matière qui n'existe même pas. C'est-à-dire que même dans mes rêves les plus fous, après des. Enfin, c'est inimaginable. Inimaginable. Il y a d'autres choses qui peuvent être mises en place, mais ça, c'est inimaginable. On peut allonger la dette, on peut imaginer de ne pas payer un coupon, mais déjà, juste, c'est juste sur se mettre d'accord. Il y a trop d'enjeux et la mondialisation est faite qu'aujourd'hui, c'est pas envisageable d'un point de vue juste humain, tout simplement.
Ok, merci beaucoup Christophe. David, en 30 secondes sur ce sujet et vous enchaînez sur le point marché, s'il vous plaît.
En effet, ça serait la solution idéale et on aimerait bien que ce soit possible, mais il y a des contraintes. Il faut que ce soit fait. Généralement, il faut que tout le monde se mette autour de la table le vendredi soir et que le dimanche, ça soit réglé avant l'ouverture des marchés le lundi. Totalement irréaliste et extrêmement compliqué à faire, d'autant plus que ça fait faire des pertes aux banques centrales. Ces pertes, par la constitution des banques centrales. Donc, on dit que quand il y a des pertes, il faut les recapitaliser. Et qui doit les recapitaliser? Ce sont les États. Donc, voilà, ça pose tout un tas de sujets. Et n'oublions pas le fameux effet papillon, c'est-à-dire qu'on va mettre en accord, peut-être, si on y arrivait, quatre blocs. Et peut-être que tout le monde se dirait, ah ben, en fait, le seul endroit où on est vraiment tranquille, c'est la Suisse, qui ne s'était pas mis autour de la table parce qu'elle n'a pas les mêmes problèmes que les autres, parce qu'on a jugé qu'elle était trop petite. Tout le monde se rue sur la Suisse. Vous voyez, il y aura toujours un effet qu'on n'aura pas prévu et je trouve ça extrêmement dangereux. Alors qu'effectivement, vous prenez une souche d'obligation à 10 ans et vous la rendez perpétuelle, par exemple. Bon, c'est des choses qui sont un peu plus gérables en tous les cas. Voilà.
Allez,
Donc,
le point marché.
je ne crois pas au grand reset. On va passer maintenant donc au grand marché. On se retrouve donc pour une nouvelle chronique des marchés, une des marchés qui joue un petit peu aux montagnes russes après une descente aux enfers, donc suite aux annonces de Trump sur les droits de douane. Eh bien, le rebond des marchés a été tout aussi spectaculaire que le retournement de veste du locataire de la Maison-Blanche. Si on reprend les performances depuis le début de l'année, juste pour avoir une petite idée de où on en est, vous avez des marchés actions de la zone euro qui sont en hausse d'environ 13%. Le marché américain qui est en hausse de 2% en dollars, mais si vous êtes un investisseur euro basé en euros et que vous devez vous prendre l'effet dollar en plus, eh bien le marché américain il est en baisse de 5% depuis le début de l'année. Le Japon est en très léger repli, quasi anecdotique. Et j'ai envie de dire que de cette image des marchés financiers, ce qui est frappant, c'est la sous-performance des marchés américains, qui se matérialise depuis le mois de mars. On n'y était pas du tout habitué. Ça fait des années et des années que le marché américain surperforme le reste du monde. Ce qui est intéressant, c'est que sur les 3 dernières années, maintenant, ça y est, avec le rebond qu'on a eu et l'écart de performance entre le marché des actions de la zone euro et le marché américain, ben finalement, les deux classes d'actifs ont eu quasiment la même performance. Voilà. Donc, pour vous donner un petit peu la violence du rebond des marchés de la zone euro. Au niveau de cette défiance sur les actifs américains, on a parlé de la défiance donc sur les marchés actions. La défiance, elle se matérialise également du côté obligataire. On n'en parle pas, mais dernière parmi les trois agences de notation à ne pas l'avoir fait, bah, c'est Moody's qui a décidé de retirer aux États-Unis son fameux triple A. Alors bien sûr, ça a poussé les taux d'intérêt encore plus haut. Pourquoi Moody's a fait ça? Bah, elle s'inquiète de la trajectoire de la dette américaine. Bien entendu, cette dette n'a pas arrêté d'augmenter. Et surtout, cette dégradation, elle intervient en pleine tractation budgétaire. Et on a bien vu qu'il y a des élus républicains qui commencent à refuser de voter les baisses d'impôts en l'absence de coupes supplémentaires dans les dépenses. Donc en fait, il faut vraiment que des efforts soient faits supplémentaires en ce sens, et c'est essentiel pour que les taux américains puissent rechuter et redonner un peu d'oxygène à l'économie américaine. D'un point de vue politique, Donald Trump semble pouvoir s'affranchir de toute opposition et diriger le pays en autocrate solitaire. Du point de vue des marchés financiers, c'est une autre histoire. C'est véritablement le marché obligataire qui contraint Trump à un semblant de raison. Des taux trop élevés, et c'est tout de suite la catastrophe qui pointe le bout de son nez. On se souvient, je le répète très souvent dans cette émission, mais 2022, l'Angleterre, Liz Truss, Premier ministre la plus rapide de l'histoire, ramenée à l'ordre en 45 jours par des taux longs incontrôlables. Incontrôlables. Le maintien de la confiance est clé et sur le marché actions, malgré le rebond spectaculaire du S&P 500 la semaine dernière, donc il faut savoir que l'indice américain la semaine dernière a pris plus de 5%, il y a encore du chemin à faire. Sur les marchés des taux, comme nous le dit Moody's, cette confiance, elle ne tient qu'à un fil. Avec un peu de chance, cela nous permet d'espérer que Trump mette un petit peu d'eau dans son vin et nous laisse gérer nos portefeuilles en toute tranquillité. On n'y croit pas trop, mais on peut l'espérer. Alors, sur les marchés maintenant, que faire en ce moment? Moi, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt le moment de prendre quelques bénéfices tactiques. Alors attention, hein, quand je dis prise de bénéfices, c'est pas on vend tout et on sort des marchés, on se met en monétaire jusqu'à la fin de l'année. C'est juste sur les actifs européens, sur les actions européennes, il y a eu un rebond spectaculaire, une excellente performance. On a fait 13% en 5 mois. Si on a envie de bouger, et je dis si on a envie de bouger, parce qu'il n'y a pas forcément de mouvement obligatoire, s'il y a un truc à faire, c'est peut-être un petit peu de prudence. Pourquoi un peu de prudence? Ben parce qu'il y a encore énormément d'incertitudes. La trêve sur la guerre commerciale, elle a été actée pour 90 jours. Cette période de 90 jours, elle va arriver à son terme et on n'est pas à l'abri, encore une fois, d'un nouveau cycle d'annonces, de menaces, de volatilité. Donc j'ai envie de dire que là, pour le moment, cette incertitude, elle ne me semble pas encore totalement reflétée dans les cours. J'ai envie de dire, sur certains marchés, on a l'impression que tout va bien et tout va pour le mieux et que tout est effacé. N'oublions pas qu'on risque, voilà, c'est une année qui risque d'être encore un petit peu en dents de scie et j'aurais tendance à pencher à court terme pour un peu de prudence. Je suis intéressé de savoir si l'un d'entre vous autour de cette table partage ce point de vue ou si au contraire, vous allez me contredire.
C'est intéressant parce que je vais utiliser un mot qui des fois est vu un petit peu comme méprisant, mais il n'est absolument pas dans ma bouche. J'ai envie de dire, pour les gens comme vous, le moment est venu de prendre les bénéfices. Pour les gens comme nous, c'est un peu trop tôt. Et en fin de compte, quand on confie de l'argent à un gestionnaire de fonds ou à un gérant de fonds, on attend chez lui de la vitesse de réaction et de la mobilité tactique qu'on ne peut pas avoir. Parce que ce n'est pas notre métier, parce qu'on n'est pas tous les jours sur les écrans et les choses comme ça. Et donc, j'ai eu cette discussion avec plusieurs clients ce week-end qui m'ont appelé, qui m'ont demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Et moi, ce que je leur ai dit, David, je leur ai dit, écoutez, on va encore un peu laisser pousser la chanson. On va attendre la fin du mois de juin, donc globalement un peu plus qu'un mois. Et ensuite, on verra où il faut alléger, on prendra des bénéfices et on passera un été tranquille parce qu'on aura du cash ou de l'obligataire avec peu de risques dans nos portefeuilles pour passer l'été. Et là, quand je vous entends, j'ai envie de me dire, j'ai envie de, enfin, je me dis, je n'ai pas envie de me dire, je me dis qu'on a tous les deux raison, qu'on pense tous les deux la même chose et qu'on le fait juste différemment. Parce qu'on n'a pas le, parce qu'on n'a pas le même levier de commande. Et après, moi, de mon côté de gestionnaire de patrimoine, enfin, c'est tellement facile de faire vendre à un client, c'est-à-dire vous levez le téléphone, vous lui appelez, vous lui dites, écoute, entre Trump, c'est un bidule chouette, ta, 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 ta. En moins d'une minute, même pas, en moins de 30 secondes, il vous dit oui, bien sûr, si vous pensez qu'il faut vendre, vendez. Alors que le faire racheter, c'est-à-dire que si vous le faites vendre et que vous avez raison et qu'on prend moins 10, moins 12, et que là, vous l'appelez pour le faire racheter. Ah bon, t'es sûr, c'est le moment, c'est peut-être pas trop tôt, enfin, tellement de choses comme ça. Donc voilà, donc j'ai envie de vous dire, oui, je pense qu'on sent la même chose, on n'est pas à la même place, on ne tire pas les mêmes manettes, donc il est sans doute temps pour vous de commencer à prendre quelques bénéfices, et pour nous, le temps n'est pas encore venu, mais on va vous rejoindre. Et là, ça va être très, très intéressant. D'entendre les trois autres personnes. On a également deux gérants et on a un assureur qui voit les flux rentrer et sortir quasiment au jour le jour. On va commencer par vous, Thomas. Qu'est-ce qu'ils disent des flux? Vous avez déjà commencé à avoir chez Wellins des flux sortants d'actions ou vous avez plutôt encore des flux rentrants d'actions et pas de flux sortants? Parlez-nous un peu de ces flux.
Bon, il faut se méfier des flux parce que ça peut être lié à plein d'autres facteurs. Mais nous, sur les actions européennes, on a plutôt des flux positifs depuis le début de l'année et ça a plutôt tendance à continuer. Donc, si on regarde juste les flux, c'est un peu le seul mouvement qu'on a pu voir, c'est-à-dire on suppose que ce sont peut-être des réallocations d'actions américaines qui vont vers l'Europe. Là-dessus, ça reste à peu près positif. Mais c'est tout ce qu'on peut voir. Ça peut être aussi lié à une bonne fenêtre pour certains de nos fonds, donc il faut toujours se méfier un petit peu, hein, et dans les sondages que nous montrent les brokers. On a vu des flux entrants sur les actions européennes depuis le début de l'année assez fort. J'ai pas trop la visibilité sur les US à ce stade.
Alors, vous êtes responsable de la gestion action. Donc, de toute façon, vos fonds, ce sont des fonds actions. Donc, même quand vous allégez, c'est vraiment à la marge et vous récupérez 1% ou 1,5% de cash. Vous avez des fonds où vous avez des droits beaucoup plus larges, donc des gestions blanches ou alors des fonds mixtes où vous pouvez changer. Et dans ces fonds-là, est-ce que vous avez déjà commencé un arbitrage ou est-ce que vous êtes à deux doigts de faire un arbitrage en sortant un peu des actions?
Bah non, nous, enfin dans l'équipe action, hein, on est vraiment sur des fonds qui sont quasiment tout le temps 100% investis. Donc on n'a pas on fait pas de mouvement tactique. C'est plus dans les équipes diversifiées. Mais effectivement, je rejoins quand même David sur le court terme. C'est étonnant quand même d'avoir des marchés qui sont revenus exactement au même niveau avant le Liberation Day, alors que le niveau d'incertitude. Il a baissé, mais il n'est pas revenu là où il était. Il n'est pas revenu là où il était avant. Donc, l'environnement, il reste quand même incertain. On se pose pas mal de questions sur les publications des deuxièmes trimestres, qui sont fin juillet, début août, où la visibilité quand même est en train de se réduire pas mal quand on parle avec les sociétés. Il va y avoir des mauvaises surprises sur le T2 beaucoup plus que sur le T1. Il y en aura sans doute des bonnes aussi, mais on est en train de rentrer dans un moment où la visibilité s'est quand même fortement réduite. Donc voir les marchés revenir à leur niveau quasiment au plus haut compte tenu de tout ça, bah, ça nous fait dire qu'effectivement, tactiquement, même si nous, c'est pas ce qu'on fait parce qu'on est toujours investi, ouais, ça pose question.
Ok, alors, Lucas, cette fois-ci les flux, mais les flux rentrants et les flux sortants, les arbitrages du côté de Wellings, sur les nouvelles souscriptions, vous notez une diminution, une hausse ou une stabilité de la part action? Et sur les portefeuilles en cours, comment les choses se passent?
Alors, d'un point de vue global au niveau assurance, il y a beaucoup de souscriptions. Ça, c'est clair à Luxembourg, que ce soit chez nous, mais enfin, sur l'ensemble de la place. Après, sur la partie des investissements, par rapport à ce qui était indiqué, hein, aujourd'hui, les clients, ils sont très à l'écoute quand on va leur parler de sécurisation du portefeuille. Donc, ça va être plutôt sur la partie action, plutôt sortant à la limite. Et il leur faut un temps plus important pour être convaincu de re-rentrer sur cette partie-là. Voilà, ça c'est
Christophe?
la tendance au niveau des clients.
D'accord. Christophe, alors, par contre, chez vous, il y a beaucoup de gestion mixte, donc le sujet de savoir si on baisse ou si on augmente la pondération action, c'est un sujet qui est extrêmement présent chez Sany. Donc, bien entendu, quand vous avez des fonds actions purs, le sujet est moins prenant, puisque là, on fait le travail qu'il y a à faire. Comment vous voyez les choses et surtout, quelles leçons vous tirez de la récente hausse qu'on a eue sur les marchés, tant européens qu'américains d'ailleurs?
Alors les leçons, c'est pas tant sur la récente hausse, hein. Les leçons, c'est tout le temps les mêmes. En fait, on peut faire une analogie de à chaque fois qu'il se passe quelque chose d'un peu violent sur les marchés ou quand on manque de visibilité. Aujourd'hui, le market timing, c'est-à-dire choisir le bon moment pour rentrer ou le bon moment pour sortir, je trouve que c'est un autre sport que le nôtre aujourd'hui. C'est-à-dire que notre métier, c'est le temple des regrets. Donc on va dire bah, si j'avais su et ainsi de suite. Donc, nous, notre sujet, il est assez simple. C'est vrai qu'un des drivers, c'est l'économie américaine et le marché américain, quoi qu'on en dise. C'est 75% de la capitalisation boursière mondiale. Donc, c'est un driver important. Et contrairement à ce qu'on peut imaginer, parce qu'il y a beaucoup de biais cognitifs qui nous disent, mais finalement, les marchés, ils baissent souvent et donc, c'est le moment d'inconstance, ça arrive régulièrement. Ce n'est pas le cas aux États-Unis. La baisse qu'on a vécue là au cours depuis le début de l'année, c'est des moments qui sont relativement rares. Et donc nous, on en a effectivement profité pour rentrer à ce moment-là, sans savoir si on allait rentrer au plus bas ou au plus haut. Le seul regret qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas rentré assez parce que le rebond, il a été extrêmement violent. Donc on est rentré parce que c'est plus facile aussi. Nous, sur un clic de souris, on appuie sur un bouton et on passe d'une exposition à l'action américaine de 10 à 20%. Ça nous prend une seconde. Dans le cadre d'un client particulier, dans une gestion patrimoniale comme vous le faites, c'est évidemment bien plus compliqué. Et il ne faut pas oublier non plus ce qu'on est en train de faire et les raisons pour lesquelles on le fait. Généralement, l'épargne, c'est sur un temps inévitablement long. Et d'ailleurs, heureusement, parce que finalement, quelqu'un qui se serait réveillé aujourd'hui depuis le 1er janvier, il n'aurait pas l'impression qu'il se soit passé grand-chose. Et pourtant, le chemin, il a été tortueux. Et donc, quand on regarde les éléments sur un temps long, je pense que c'est David qui disait ça tout à l'heure, on s'aperçoit que finalement, sur la durée, ça a plutôt très bien fonctionné. Donc, essayer d'opérer de manière tactique, c'est toujours un côté un peu sexy de notre travail, de dire ah, c'est chouette parce qu'on est capable de le faire. Mais à la fin, la seule chose qu'on sait nous bien faire, c'est que quand il y a un choc de marché, c'est de re-rentrer et de surpondérer cette partie-là à un moment donné. Ça a été le cas aujourd'hui, très bien, mais ce choc de marché, il aurait pu être 10% plus bas. Et d'ailleurs, nous, on l'a vu avec un institutionnel avec lequel on travaille, c'est un très bon exemple d'ailleurs. Hein. Puisque l'institutionnel avec lequel on travaille, on a une partie technologique chez nous, on a un fonds technologique qui fonctionne plutôt très bien. Quand il y a eu ce choc de marché très violent, cet institutionnel en question, qui est un gros institutionnel français, a décidé de remettre 10 millions sur un actif qu'il avait déjà chez lui, en disant finalement, je trouve que la thématique elle est super sexy, donc je vais en faire, j'en avais déjà, mais je vais en faire à ce prix-là, parce que ça me semble intéressant. Et si demain ça continue de baisser, eh ben, à chaque baisse de 10%, je remettrai 10 millions. Alors quand on dit ça comme ça sur le papier, c'est ultra sexy, c'est très sympa. Bon, lui, il a un avantage par rapport à vous, Bernard, c'est qu'en face, il n'a pas de client. Et donc, il n'a pas besoin de défendre cette déformation de volatilité à un moment donné. Alors, au bout du compte, il se trouve qu'il a eu un peu de bol parce qu'il a mis ses 10 millions la veille où le Nasdaq a fait plus 12. Bon, bah, on a le droit d'avoir du bol de temps en temps. Voilà. Donc, ce qui est moins heureux pour nous, c'est qu'il n'a pas remis les 10 millions d'après parce qu'effectivement, le marché n'a pas continué de baisser. Mais tout ça pour dire que sur un terme long, pour ceux qui sont investis en actions, au cours des 10 dernières années, c'est quand même extrêmement bien passé. Est-ce que ça va bien se passer sur les 10 prochaines? On peut imaginer que certainement oui, alors oui, il y aura des à-coups, ou oui, il se passera des choses, mais moi je ne crois pas au grand soir. Voilà. La visibilité, elle est faible, certes, mais on peut être enclin à dire qu'il va y avoir un rebond terrible il y a un ou deux mois. Donc c'est toujours la difficulté de la boule de cristal. Donc nous, on a eu de la chance de le faire à un moment donné. Est-ce qu'on l'a fait assez? Ben, la réponse est non, on ne le fait jamais assez, mais il se trouve que sur un temps long, les performances sont plutôt bonnes, donc ça fonctionne.
Ok, alors j'ai ma dernière question à vous poser un petit peu à tous. Quand j'essaye de faire un petit peu une analyse et une synthèse qui a été dit, des choses où vous semblez être d'accord ou avoir des points de convergence. le temps long, l'Europe, small et mid cap, et un petit peu la défense, qui est aussi une réorganisation de l'Europe. Donc, est-ce que le moment ne serait pas venu d'acheter des petites et moyennes valeurs européennes de la défense? David? Déjà, est-ce que vous en achetez? Déjà, attendez. Est-ce que, un, vous en avez acheté? Est-ce que, deux, vous réfléchissez sérieusement en acheter? Et est-ce que, trois, juste de répondre à ma question, est-ce que le temps d'en acheter ne serait-il pas venu? Allez, on va rapidement. Trois questions.
Alors là, on arrive sur un mini segment, hein. Small mid défense, c'est vraiment très très petit. Nous, on a plutôt l'habitude de rester sur des large cap parce qu'on est très soucieux de la liquidité. En termes de segment de marché, oui, le secteur de la défense a de beaux jours devant lui, même s'il y a déjà une grosse partie qui est déjà pricée, hein, qui est déjà intégrée dans les cours. J'ai pas de forte conviction là-dessus. J'ai pas de forte conviction là-dessus.
Ok, résultat dans un an, on en reparlera. Thomas?
Moi, je vais rejoindre David. Effectivement, c'est un petit segment dont on parle. Nous, ce qu'on regarde aussi, c'est on élargit un tout petit peu. Il y a beaucoup d'entreprises qui soient larges ou petites qui sont exposées à la défense. C'est pas forcément leur 100% de leur business, mais il y a beaucoup d'entreprises qui ont 20, 30, 40% d'exposition au secteur de la défense. Et là-dessus, il y a pas mal de belles boîtes. L'avantage, c'est qu'on a un peu de diversification. Si le soufflet retombe, on a le reste des activités qui peuvent venir prendre le relais. Donc nous, des titres comme ça, on en a déjà pas mal, hein, dans nos gestions. Et ça peut être une façon d'aborder le segment.
Ok, super. Christophe?
Il y a plein de choses qui ont déjà été dites, donc oui, je partage avec David sur la liquidité. Un jour, ça va être l'année des smalls, hein. Ça c'est sûr. Ça fait 5 ans qu'on le dit, donc à un moment donné, ça va bien, la prophétie va bien se mettre à jour, hein. Mais il y a un sujet quand même sur les smalls, c'est-à-dire qu'il y ait de la confiance pour que les gens investissent. Voilà. Aujourd'hui, il me semble que le risque-prix versus la rentabilité attendue, c'est difficile. Et moi, vous me connaissez bien, moi j'adore les smalls et à titre perso, je suis un gros porteur de small depuis très longtemps. Alors j'ai très bien gagné ma vie avant, hein. Là c'est un peu plus dur depuis quelques années, mais pour que les small fonctionnent, il faut qu'il y ait vraiment une confiance très forte et il faut qu'il y ait des flux. Voilà. Et aujourd'hui, les flux sont vraiment embryonnaires. Voilà. On a envie, c'est un peu la méthode Coué parce que c'est des boîtes qu'on connaît, sur lesquelles il y a plein de choses à faire, qui sont plutôt sexy, qui sont monométiers. Enfin, il y a mille choses à raconter sur les small, sauf qu'aujourd'hui, on voit bien quand il y a eu un rebond très violent, c'est les larges qui ont pris le rebond plus que les small. Donc sur un terme long, oui, ce serait certainement une bonne idée. À court terme, je pense qu'il y a peut-être d'autres choses à faire que uniquement des small caps, et ça me coûte quand je le dis, mais je le pense vraiment, donc je le dis comme je le pense.
Ok. Bon, ben c'est sur ces mots qu'on va terminer la partie finance et patrimoine de l'émission. Merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous. Thomas Meunier de Lazard Frères Gestion, Lucas Bosso de Wellins Assurance, David Calfon de Samson Longchamp et Christophe Tapia de Sunny Asset Management. Merci beaucoup, à très bientôt. Et bonne soirée. Et maintenant,
Beaucoup.
Guillaume Baume, alors vous ne le voyez pas parce qu'on est à la radio, mais il est venu avec sa casquette. Il a une casquette. Guillaume Baume, c'est notre globe-trotteur, le globe-trotteur français à Lisbonne, photographe, spécialiste de l'Afrique, de Madagascar, un parcours à l'ancienne, alors qu'il est très jeune, hein. Vous le voyez pas, mais en allant le googliser, vous allez voir, il est très jeune. Récemment, un livre qui est sorti en français et en anglais sur l'Afrique, une vision animalière de l'Afrique différente, quelque chose de. C'est pas un livre de belles photos d'animaux, donc je ne l'ai pas lu, mais je l'ai bien feuilleté quand même et j'ai lu quelques articles. Et c'est intéressant. Alors, Guillaume, ce que je vous propose, vous nous parlez un petit peu de vous. Ensuite, on parle un petit peu de l'Afrique. Et après, on parle un petit peu de vous et l'Afrique et de ces deux livres.
Ça marche. Je suis très heureux d'être là. Merci de m'avoir invité. Qu'est-ce que je peux dire sur moi? Oui, je suis français. Je suis né en Afrique, troisième génération à Madagascar. Et puis, j'ai suivi mon père un peu partout dans le monde entier, qui tous les 3-4 ans changeait de pays. Et on a fini au Kenya dans les années 80, où j'arrive au Kenya à l'âge de 14-15 ans et je me pose la question, mais alors on est français, mais on n'a jamais vécu en France. Donc voilà, le parcours pour moi, un petit peu de la curiosité qui m'anime encore aujourd'hui, commence à ce moment-là. Et donc ça nous amène au livre que je viens de faire aujourd'hui, ou peut-être faisons un pas en arrière, je suis devenu photojournaliste. Et j'ai commencé ma carrière début des années 90, qui m'a permis de vraiment, comment dire, découvrir mon continent, entre guillemets, j'aime pas ce terme-là, mais comme je me posais la question, comment ça se fait qu'on est français mais qu'on n'a jamais vécu en France, je me suis dit en arrivant au Kenya que ça allait être mon pays et les questionnements ont continué et j'ai décidé de découvrir l'Afrique pour essayer de mieux de me découvrir et découvrir l'histoire de ma famille dans cette histoire-là, voilà. Donc je suis resté au Kenya pratiquement plus de la moitié de ma vie et j'ai été animé très rapidement par les enjeux du conflit entre l'homme et la faune sauvage. Et donc métaphoriquement, l'homme et la faune sauvage, ça veut dire quoi? Ça veut dire la faune sauvage, c'est les vieux habitats et toute la faune qui s'y trouve et qui vit et face au progrès et au surdéveloppement que l'Afrique vit depuis une vingtaine d'années, qui détruit tout sur son passage. Voilà, donc ça, c'est un peu l'angle principal de mon livre. Mais
Alors,
surtout.
juste une réaction là-dessus. Ce conflit entre l'homme et la faune sauvage, il existe depuis l'homme préhistorique. Il s'accélère avec le modernisme et avec la multiplication du nombre d'hommes sur la planète. Mais
Ben,
les
c'est-à-dire que j'aurais tendance à dire non, parce que pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il n'y avait pas autant de monde déjà. Et la deuxième chose, c'est que les écosystèmes dont je parle dans mon livre vivaient en espèce de coexistence avec les hommes qui vivaient sur les mêmes terrains que les animaux et qui se nourrissaient de ces écosystèmes et qui permettaient à ces écosystèmes d'avancer, comment dire, d'avoir une balance naturelle. Donc tout ça vivait ensemble. Et ce qui s'est passé, c'est que quand le monde moderne est arrivé en Afrique, les sportifs de la chasse ont commencé à tirer sur tout ce qui bougeait. Et jusqu'au moment assez rapidement où ils se sont rendus compte qu'ils avaient vraiment décimé beaucoup de choses. Et ils se sont dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, ils ont commencé le système des parcs nationaux qui est encore en place aujourd'hui. Et à ce moment-là, on dit aux gens qui vivaient localement, qui étaient donc des chasseurs-cueilleurs, vous ne pouvez plus rentrer dans ces parcs car maintenant vous êtes des braconniers. Donc, il y a une espèce de grande disconnection qui se crée à ce moment-là. Et ce que le livre, vraiment le focus du livre aujourd'hui, c'était de dire. On a tous l'impression à l'Ouest, enfin dans le monde occidental, que tout va bien et que les grandes organisations qu'on connaît tous s'occupent de sauver et de sauvegarder la faune et l'habitat. Ce qui est pas tout à fait correct, puisque moi, de mon vivant au Kenya et dans d'autres pays d'Afrique, j'ai vu tous ces grands espaces dans lesquels j'ai grandi et dans lesquels j'ai fait toutes mes aventures de jeune de 18 ans à 30 ans disparaître sous mes yeux. Donc tous ces endroits sont devenus soit des villes, soit des villages, soit des comment on dit ça en français, des shanty towns, soit des endroits où il n'y a aucune urbanisation et aucun plan où les gens mettent des maisons, mettent ce qu'ils veulent en fait. Et ça devient très rapidement un gros problème parce que ces endroits-là étaient entre guillemets le frigidaire de la faune sauvage qui étaient dans les parcs nationaux. Voilà, donc en gros, c'était une idée, c'était il faut réaliser que les parcs nationaux aujourd'hui sont devenus, dans beaucoup de pays en Afrique, sont devenus des espèces de zoos à toit ouvert, quoi. Voilà.
Alors, bon, là, on est sorti de la photographie, on est presque dans la sociologie, et on est à deux doigts de rentrer dans la politique si je vous pose une ou l'autre question. Alors, on va revenir sur la photo, et on va revenir sur quelque chose qui me paraît très intéressant. Quand moi, je vous ai dit que la lutte entre l'homme et la faune sauvage, elle existe depuis la nuit des temps, vous m'avez répondu oui, mais on avait une coexistence d'écosystèmes. Donc, c'est là-dessus que j'aimerais qu'on parle. C'est cette rupture de la coexistence en fin de compte. C'est-à-dire que Tant que l'homme se nourrissait de la chasse avec l'animal, il devait coexister parce que c'était sa ressource. Donc, en même temps qu'il avait besoin d'exploiter la ressource, il devait aussi la protéger. Et c'est là maintenant on a plus ce besoin de protection, où on n'a plus cette conscience du besoin de protection, ou alors en fin de compte, c'est encore la modernité qui nous a fourvoyés et les parcs nationaux ont pu être une réponse à court terme, mais sont absolument pas une réponse à moyen terme et encore moins à long terme. Et la réponse, ce serait de retrouver une connexion les uns avec les autres. Mais et est-ce que c'est un problème spécifique à l'Afrique ou est-ce qu'il y a le même problème en Asie? Quand j'ai eu la chance de visiter l'Inde, le problème avec le tigre était le même et il a fallu créer des parcs nationaux pour protéger le tigre parce qu'autrement, il n'y en aurait plus aujourd'hui.
Absolument, on est tous en face d'un problème planétaire, à savoir, on ne dit pas suffisamment assez parce que ce n'est pas politiquement correct, c'est un problème de surpopulation, c'est-à-dire que on est trop et nos ressources ont diminué au point où on commence à avoir des problèmes dans certains endroits comme le Moyen-Orient, la Syrie, etc., où on commence à se battre pour des endroits qui ont de l'eau. Donc, c'est un réel problème. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme vous le disiez très justement avant, c'est qu'il y a une déconnexion qui s'est faite il y a 120, entre 120 et 150 ans, entre le fait qu'on était des cueilleurs-chasseurs et le monde moderne s'installe et on a de moins en moins besoin de la faune sauvage, entre guillemets. Sauf que la faune sauvage, là où elle vit, c'est aussi les endroits qui nous amènent de l'oxygène. Donc, moi, ce que je dis dans le livre, c'est que tout le monde a le droit au développement, mais pourquoi le développement est tel qu'on le connaît, ou le développement ou le progrès, c'est le grand terme qu'on utilise depuis longtemps, est-ce que le progrès doit être absolument associé, comme on le comprend aujourd'hui, à la destruction? Il y a forcément, on est suffisamment intelligent, on a mis des hommes sur la Lune et on fait voler les avions, on est suffisamment intelligent avec ce qu'on connaît aujourd'hui pour pouvoir créer un développement qui ne détruit pas tout sur son passage. Donc, c'est une des choses aussi que je dis dans mon livre, c'est que il faut commencer à discuter avec ce qu'on appelle en anglais les custodians, les gens qui vivent encore dans ces territoires et qui vivent encore en osmose avec la nature, car ils en ont encore besoin. Je pense en l'occurrence aux Maasai, à la tribu des Maasai, qui a réussi, d'une certaine façon, c'est un miracle, qui a réussi à s'adapter au XXIe siècle et qui continue à vivre ou à garder certaines traditions encore qu'elles avaient il y a 50, 60, voire 100 ans. Donc ils vivent en coexistence avec cette nature et on se retrouve dans des endroits aujourd'hui, comme par exemple, je donne un exemple très concret, la Tanzanie, où vous avez le gouvernement tanzanien qui, pour des raisons de conservation, donc pour la conservation, est en train aujourd'hui et depuis plus d'un an de déplacer manu militari les tribus Maasai qui vivent dans l'écosystème du Serengeti pour des raisons de conservation, en leur disant, voilà, il faut qu'on vous bouge parce qu'on veut préserver le Serengeti. Sauf que ce qu'on n'a pas compris encore aujourd'hui, et le gouvernement tanzanien non plus, c'est que si ces endroits-là existent encore, c'est grâce aux Maasai. Donc, on est en train de bouger les gens qui ont réussi par leur présence à garder tous ces endroits encore vierges, entre guillemets, et on leur dit, vous allez bouger parce que nous, on a besoin de préserver ces endroits-là. Enfin, c'est un peu une blague. Donc, ce qui se passe depuis très longtemps et on ne se rend pas compte, c'est que les gens à qui il faut discuter, ce sont les gens locaux, ce sont les gens qui vivent encore dans ces endroits-là, qui ont des solutions journalières par rapport à la vie qu'ils ont en osmose avec la nature. Donc, ces gens-là, ils n'ont pas leur place à la table des négociations. Le système qu'on a en place aujourd'hui, ce sont des experts internationaux qui viennent de Washington, Londres, Paris, New York, Rome, etc., et qui viennent avec des gros fonds et qui viennent voir les gouvernements africains et qui disent, voilà, nous, on est experts et on a beaucoup d'argent. Alors évidemment, quand vous arrivez chez quelqu'un et qu'il vous dit ça, le gouvernement africain, il va dire, bah, super, vous allez vous occuper de ces problématiques pour nous. Ce qui fait que ça crée des déconnexions encore plus amples, plus grandes, même entre les gouvernements africains et ce qui se passe dans leur pays par rapport à la problématique de la faune sauvage. Et la résultante de ça, c'est la Tanzanie qui est l'exemple le plus criant.
Alors,
Donc voilà.
là-dessus, je vais réagir. Bon, vous avez sans doute raison dans ce que vous dites, mais en Tanzanie, il y a aussi clairement un problème politique. C'est que les Maasai sont une extrême minorité de la Tanzanie Et ils ne sont pas vus de manière si bienveillante que ça par les autres tribus ou par les autres ethnies de Tanzanie. Ça, c'était un petit peu ce que je retenais de mon voyage, hein. Donc, c'est une vision peut-être pas globale, mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai un peu senti les choses quand j'ai visité la Tanzanie.
Oui, alors, sentir ce que vous avez senti très bien, mais moi, je vous parle d'une expérience, d'une vie. Je vous parle pas d'un voyage. Donc,
Non, mais c'est pour ça que je vous demande quel est votre point de vue là-dessus.
oui, et quand vous dites la politique, ça revient toujours à la politique. Ce n'est pas une question de fonds financiers, parce qu'on est dans un système où on nous martèle. Tous les jours en disant, voilà, il faut donner plus d'argent pour pouvoir restaurer notre relation avec la nature. Or, ça fait 30 ans de mon vivant que je vois qu'il y a tout cet argent qui a été donné, et j'ai vu tous ces espaces disparaître en face de mes yeux. Donc, cet argent, je me pose la question, je me dis, il est allé où exactement? Parce qu'il n'a pas sauvé grand-chose finalement. C'est tellement décevant tout ça. Donc, le problème, il n'est pas financier, c'est pas de trouver de l'argent. Le problème, c'est un problème politique. Il n'y a pas d'envie politique ou de compréhension politique par rapport aux déconnexions dont je parlais tout à l'heure pour réellement trouver les solutions, parce que tout le monde dit il y a une solution, c'est pas comme ça que ça se passe, les solutions qui pourraient marcher. Alors, il y a déjà des solutions. Ce sont des petites solutions qui sont en place, mais qui sont des solutions à court terme. Pourquoi? Parce qu'il n'y a justement pas d'envie politique ou de compréhension politique des gouvernements locaux de vouloir faire ce qu'il faut faire pour changer la donne.
Ok. Alors, on va revenir à vos livres. Donc, comment ils s'appellent? Où on peut les acheter? Combien ils coûtent?
Le livre s'appelle Paradise Inc. Inc. pour Incorporated. Parce que c'est le business du paradis, voilà, je voulais mettre un petit accent là-dessus. Je voulais aussi mettre, par le biais de ce livre-là, un autre accent sur le fait que ce que j'essaye de faire dans mon livre, c'est d'insister sur la fragilité de la beauté. Le continent africain est un continent absolument sublime, mais c'est un continent qui est fragile. Et si je fais un livre, c'est pas parce que j'ai perdu espoir. Dans la possibilité de changer les choses. Au contraire, je fais un livre parce que j'ai encore de l'espoir et je pense qu'il y a plein de choses encore à faire et qu'on peut changer de direction. Donc, ce que j'ai essayé de faire par ce livre, c'est d'essayer d'expliquer d'une façon très simple ce dont on vient de parler et d'évoquer maintenant. Le livre, il s'achète sur les suspects habituels, Amazon ou votre petit magasin de quartier. C'est mieux de le faire comme ça d'ailleurs. Comme ça, on donne de l'argent aux petits commerçants. Et il est en français et en anglais. Voilà.
Alors, on peut le trouver où à Lisbonne et on peut le trouver où à Paris?
Alors à Paris, je pense qu'il se trouve, je sais qu'il se trouve à la Fnac, ça c'est sûr.
Parfait.
Donc j'imagine qu'il doit se trouver à la Fnac aussi à Lisbonne. Et puis il se trouve en ligne, quoi. On vit dans ce monde digital aujourd'hui, donc c'est surtout en ligne qu'on peut le trouver.
Ok. C'est vous qui nous avez dit c'est mieux chez votre libraire, mais. Encore faut-il connaître le libraire. Donc à Paris, je pense à la FNAC, il n'y a pas de souci. À Lisbonne, je ne suis pas sûr qu'il soit à la FNAC, mais on ira vérifier. Et dans une prochaine émission, on dira si le livre il existe à la FNAC. Et alors peut-être une idée, peut-être trouver un ou deux commerçants francophones ou de la communauté française ou de la communauté anglaise de Lisbonne et de leur mettre à disposition pour cette communauté pour qu'ils puissent le trouver facilement. Et pas aller peut-être aussi rapidement que ça l'acheter chez Amazon ou en ligne.
Alors, si vous allez à la Fnac et que vous passez commande à la Fnac, ils vont tout de suite se dire, ah tiens, il y a des Français qui passent commande pour ce livre, ça doit être intéressant, on va en commander plusieurs. Et là, ça aide le livre et ça aide le commerçant, ça aide tout le monde, quoi.
Ok, super. En tout cas, merci beaucoup, Guillaume. J'espère qu'on vous reverra une prochaine fois pour parler peut-être d'un projet à Lisbonne. Ou d'un projet un peu européen, ou même d'un projet franco-européen dans cette France dans laquelle vous n'avez jamais vécu, mais où peut-être un jour vous vivrez et puis vous reconnecterez cette francité différente, cette francité d'outre-mer, ou cette francité de qui sent bon la France, elle aussi. Merci beaucoup,
Merci à vous, merci de votre invitation.
à très bientôt, et voilà, l'émission prend fin maintenant. Au revoir.
Au revoir.